Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc n'hésitez pas à utiliser votre navigateur web préféré et rendez-vous sur chat.libre-a-toi.org. J'espère que vous avez passé un bel été, que la rentrée se passe pour le mieux. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Houchet, délégué général de l'April. Et autour de moi, il y a mes collègues Isabella et Étienne. Donc bonjour Étienne.
Bonjour.
Donc Étienne Gonu en charge des affaires publiques et Isabella Vanni qui s'occupe de la vie associative et responsable projet. Bonjour Isabella.
Bonjour.
Le site web de l'April, c'est april.org, donc april.org. Et vous y retrouverez, je pense, après l'émission, une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et vous pouvez bien entendu intervenir en direct sur le web chat. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, je vais d'abord vous rappeler l'objectif de l'émission Libre à vous de l'April. C'est une émission qui est donc principalement animée par l'équipe salariée de l'April, mais aussi par des membres de bénévoles de l'association et des invités. Cette émission se veut une émission d'explication et d'échange concernant nos dossiers politiques et juridiques que nous traitons autour des libertés informatiques et les actions que nous menons. Et nous avons également aussi des sujets qui traitent autour de la sensibilisation du logiciel libre. Nous espérons donner à chacun et chacune de manière simple et accessible les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi proposer des moyens d'action. Donc tels sont les objectifs de cette émission mensuelle qui est diffusée en direct chaque premier mardi du mois de 15h30 à 17h. On va passer au programme du jour. Alors, le programme du jour, nous avons trois sujets. Nous allons d'abord avoir le plaisir d'avoir par téléphone Aliette Lacroix du collectif pour une transition citoyenne qui nous parlera donc dans quelques minutes de la fête des possibles qui se déroule du 15 au 30 septembre 2018. Plus tard, nous aurons en studio Jean-Baptiste Kempf du projet Vidéolan. Donc, le projet Vidéolan développe le célèbre lecteur multimédia libre VLC. Vous savez, ce lecteur qui est identifié par une icône, un cône orange et blanc sur votre ordinateur. Nous aurons également par téléphone Marie Duponchel, qui est docteur en droit et avocate. Et avec Jean-Baptiste et Marie, nous discuterons de la problématique des DRM, les fameuses menottes numériques. Et avant cela, Étienne Gonu nous fera un point sur notre sujet, entre guillemets, préféré, en tout cas récurrent, qui est la directive droit d'auteur. Donc l'actualité autour de cette directive, la mobilisation en cours avant le vote au Parlement européen prévu le 12 septembre. Mais tout de suite, je vais passer la parole à Isabella et Aliette pour nous parler de la fête des possibles.
Donc la fête des possibles, c'est un événement qui contient des centaines d'événements en réalité. Et l'organiser en France et dans plusieurs pays francophones pour valoriser les initiatives citoyennes locales et montrer des modes de vie et de consommer alternatifs, plus solidaires et plus écologiques. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Aliette Lacroix, coordinatrice de la fête possible avec nous, pour en savoir un peu plus sur cet événement. Donc je te laisse la parole. Pourquoi cet événement? Pourquoi fête des possibles? Quel est le but que vous proposez avec cette initiative?
Merci beaucoup Isabella et merci de me recevoir dans cette émission aujourd'hui. Alors, effectivement, donc bien résumé, la fête des possibles, c'est donc du 15 au 30 septembre un ensemble de rendez-vous, des centaines de rendez-vous qui sont organisés par des personnes qui portent d'ores et déjà des initiatives locales et concrètes pour construire un monde plus juste, plus écolo et plus humain. L'objectif de la fête des possibles, c'est donc bien de faire découvrir ces initiatives pour que de plus en plus de personnes passent à l'action dans leur vie quotidienne pour intégrer des petites actions que chacun peut mettre en place pour une vie plus logique, plus et plus humaine.
Quand tu dis personnes qui font déjà des initiatives locales, tu entends quoi? Des citoyens, des associations
Oui, c'est ça. L'essentiel des rendez-vous sont organisés par des associations, souvent aussi des collectifs de citoyennes et de citoyens plus informels. Mais l'essentiel est porté par des associations. Il y a également pas mal de coopératives qui sont représentées. Mmh. Donc peut-être pour vous donner quelques exemples de rendez-vous, il y a par exemple les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc les AMAP, qui organisent leurs portes ouvertes à l'occasion de la Fête des Possibles. On a environ une cinquantaine de rendez-vous de présentation d'AMAT.
Pas mal.
Il y a beaucoup de projections de films qui sont organisées. Donc pour les fans de cinéma et de cinéma engagé, il y aura beaucoup de projections un peu partout en France et en Belgique. Mmh. Il y a des ateliers de do-it-yourself et de réparation. Il y a bien sûr des install parties pour ceux qui veulent passer à Linux et qui n'ont pas encore osé franchir le pas.
Très bien.
Voilà.
D'accord. Et donc, à qui s'adressent en particulier ces événements ?
Alors, ces événements s'adressent au grand public, à absolument toutes les personnes qui souhaiteraient, qui sont un peu curieuses de la transition, mais qui n'ont pas encore mis en place tout ce qu'elles souhaitaient mettre. Donc, plutôt des personnes qui sont déjà un petit peu sensibilisées, parce que ce n'est pas des événements non plus forcément de sensibilisation, c'est vraiment du concret. Mais après, voilà, n'importe qui peut participer au rendez-vous et on s'adresse à absolument tout le monde. C'est la Fête des Possibles, c'est vraiment un ensemble, une collection de rendez-vous qui sont très différents. Donc l'idée, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts.
Mais très bien. Il me semble que les événements doivent être gratuits. Est-ce que tu me confirmes cela ?
Tout à fait. C'est dans les critères d'organisation, on demande que les rendez-vous soient gratuits, éventuellement à prix libre. Mais tout à fait.
Je veux savoir, est-ce que c'est encore possible, avant de passer à cette question, si jamais je suis quelqu'un ou une personne qui écoute la radio en ce moment et je me dis, tiens, ça m'intéresse, je suis curieux ou curieuse, je voudrais passer à l'action et je me demande comment faire s'il y a un événement près de chez moi. Qu'est-ce que
oui,
je peux faire ?
Effectivement, donc, l'idée c'est que tout est sur notre site internet. Donc il suffit de se rendre sur fête-d-possible.org. Pas mal d'infos circulent aussi sur les réseaux sociaux, mais le plus simple, c'est de se rendre sur le site. Et donc, ce site comporte une carte qui présente l'ensemble des rendez-vous. Donc ensuite, il suffit de zoomer sur l'endroit où on habite, l'endroit où on veut voir les rendez-vous qui nous intéressent. Et ensuite, on peut même filtrer par thématique, c'est-à-dire que si on veut uniquement des rendez-vous sur l'agriculture et l'alimentation ou bien sur les énergies renouvelables, c'est aussi possible de filtrer par thématique. Et j'ajouterais même que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, mais tiens, moi, justement, j'organise un rendez-vous qui pourrait sans doute s'inscrire sur la carte Fête des Possibles pendant la période 15 au 30 septembre », c'est tout à fait possible de saisir encore des nouveaux rendez-vous. Donc là encore, en se rendant sur le site et en soumettant, il y a un petit formulaire pour enregistrer des événements. Donc n'hésitez pas, il n'est pas trop tard et c'est possible de s'inscrire jusqu'au dernier moment.
Je vais sur le site, il y a un gros bouton inscription, donc tout
voilà.
En haut à droite. Donc si vous avez envie de proposer des événements, ou si vous avez déjà des événements de prévus, par exemple des permanences, les AMAP souvent proposent par exemple des jours fixes pour les distributions, donc ça peut être à ce moment-là, mais voilà, donc vous avez encore le temps. Et il me semble d'avoir lu que vous avez étendu la période entre laquelle il est possible d'organiser des événements. Est-ce que c'est ça ?
Oui, tout à fait. La période officielle de la Fête des Possibles, c'est du 15 au 30 septembre. On a eu pas mal de sollicitations de personnes qui organisaient des choses, qui avaient déjà prévu des événements juste avant ou bien juste après. Donc, on a effectivement étendu et il est possible d'inscrire des événements du 6 septembre au 6 octobre.
Sinon, une question qui nous a été remontée par l'une des associations que l'April a contactée, association libriste, que l'April a contactée pour l'inviter à participer à cette initiative. Il nous a remonté une question par rapport au lien entre la Fête des Possibles et le mouvement Alternatiba. En fait, en Ile-de-France, on connaît assez bien le mouvement citoyen Alternatiba, parce que depuis 2015, ils ont déjà organisé plusieurs événements à Paris et dans les communes limitrophes, j'arrive plus à dire la mot. Et ce mouvement aussi prend une demande de vie et de consommation alternative. Donc, cette association nous disait justement quel est du coup le lien entre ces deux initiatives, ces deux mouvements qui partagent complètement les mêmes valeurs.
Tout à fait. Alors, juste un mot peut-être pour dire qui est derrière la Fête des Possibles.
Très bien,
c'est,
oui.
La Fête des Possibles est portée par le Collectif pour une transition citoyenne, qui est une association de réseau d'associations et d'acteurs économiques de la transition, et donc qui comporte une vingtaine de membres, qui sont tous des personnes morales. Et Alternatiba est un membre du Collectif Transition Citoyenne, au même titre qu'Enercop, la NEF, Tisans du Monde, les Amis de la Terre, pour n'en citer que quelques-uns. Donc Alternatiba est impliquée tout d'abord dans le projet de la Fête des Possibles, les coulisses de la Fête des Possibles. Et ensuite, il y a un lien opérationnel qui est fait également avec l'équipe du Tour Alternatiba. Et toutes les étapes du Tour Alternatiba qui ont lieu pendant la Fête des Possibles sont également inscrites sur le site de la Fête des Possibles. Donc il y a un lien assez fort qui est fait. Nous allons communiquer sur le... Enfin, nous avons déjà et nous allons continuer à le faire sur le Tour Alternatiba, en particulier sur l'étape d'arrivée à Bayonne. La Fête des Possibles, justement, l'extension jusqu'au 6 octobre, c'est notamment pour inscrire l'arrivée du Tour Alternatiba à Bayonne le 6. Et de la même manière, eux nous aident à communiquer sur la Fête des Possibles. Donc l'idée, c'est vraiment que maintenant, il y a énormément de mouvements citoyens qui mettent en avant les initiatives sur la transition. On essaye de les démultiplier. Pour nous, c'est une bonne chose qu'il y en ait plusieurs. Ça fait plusieurs approches différentes qui peuvent parler à plusieurs types de personnes, de populations. Donc, nous, on voit ça comme une chose très positive. On essaye vraiment de coopérer pour que on tire profit tous les deux. Le Tour Alternatiba, la Fête des Possibles, mais aussi beaucoup d'autres mobilisations citoyennes qui vont avoir lieu, notamment en septembre. Je pense au mouvement Rise for Climate, donc la journée du 8 septembre, qui est un appel à la mobilisation pour que les citoyens se manifestent leur envie, que nos responsables prennent des actions sur le climat. Il y a également le World Cleanup Day qui aura lieu le 15 septembre. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs mobilisations citoyennes tout au long du mois de septembre. Et on a l'ambition de les rassembler dans la Fête des Possibles.
J'ai vu sur votre site, effectivement, il y a une page où sont référencés d'autres mouvements ou initiatives, événements qui portent des valeurs similaires. Et c'est sûr que plus il y a d'actions dans ce sens-là, plus il y aura de participation. Et donc, en plus, on fera bouger les choses. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, c'est à partir du 15 septembre, officiellement, parce qu'après, comme tu disais, il y a des événements qui sont inscrits juste avant... ou juste après. Je pense qu'on a bien présenté l'événement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Il y a un message que tu veux faire passer pour inviter les personnes surtout à participer.
Peut-être juste pour vous donner quelques exemples aussi. Un peu plus concrets de quelques événements un peu emblématiques. Par exemple, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent, les Parisiens et les Parisiennes, du 13 au 16 septembre, nous allons organiser l'appartement de la transition au Canot, qui est au métro Stalingrad à Paris. Et donc, il y a à peu près une quinzaine de partenaires qui vont se joindre à nous, notamment l'entreprise Common, la coopérative Common, qui va nous parler Fairphone et ordinateur durable, mais également Enercop, qui fera un atelier sur les économies d'énergie, Artisans du Monde, qui viendra parler... alimentation durable et commerce équitable. Donc un appartement qui vraiment mettra en scène tout ce que chacun peut faire chez lui. Donc un véritable appartement témoin de la transition. Je pense que on espère en tout cas que ça fera venir pas mal de monde et surtout que ça fera passer à l'action de nouvelles personnes. Et puis il y aura un village des possibles à Rennes le 22 septembre. Qui est une mobilisation assez impressionnante puisqu'il y a à peu près 40 associations qui se mobilisent pour faire ensemble un village de la transition, avec des ateliers, des concerts, des stands d'information, de la cuisine partagée. Voilà, ça me paraît pas mal déjà, mais pour vous donner un peu envie, et voilà, il y en a vraiment dans les grandes villes, dans les zones rurales, il y en a partout. Donc allez voir ce qui se passe près de chez vous.
Fred, tu voulais poser une question à Aliette ?
Alors, je voulais poser une question, mais justement sur l'appartement de la transition. Donc, c'est très bien, elle l'a annoncé.
Bonne transition.
Effectivement, j'avais noté notamment donc, pour les personnes qui nous écoutent sur Paris ce projet qui est très intéressant. Donc, du 13 au 16 septembre, permet de découvrir effectivement un appartement qui a été entièrement conçu dans l'objectif de la transition. Donc, je vous encourage vraiment à y aller. Moi, j'avais une question plus pour peut-être Isabella sur la participation des organisations du logiciel libre à travers des événements sur la Fête des Possibles. Est-ce que tu as une idée du nombre d'événements qui sont organisés et comment on peut les trouver ?
Nous avons sollicité effectivement plusieurs associations libristes, en particulier les associations qui sont déjà actives sous l'agenda du libre. Nous vous avons déjà parlé de cette plateforme qui permet très facilement et très rapidement de voir s'il y a un événement libriste près de chez vous ou une organisation libriste près de chez vous, agendadulibre.org. Et donc, on a contacté toutes les associations actives et il y en a 6 qui ont effectivement organisé un événement ou qui se sont greffés sur un événement déjà existant. Par exemple, l'association OASUX s'est greffée, c'est-à-dire qu'on aura un stand.
Alors, OASUX, c'est dans
Angul, donc c'est Angul de l'Oise. Donc, Angul, c'est le groupe d'utilisateurs et utilisatrices des logiciels libres, donc une association. Qui peut aider les personnes souhaitant passer au libre à passer à l'action, effectivement. Et donc, eux, par exemple, ils auront un stand au Carnaval de Possible, qui est un événement qui est justement inscrit sous le site de la Fête des Possibles et qui aura lieu dans l'Oise, dans le parc de la Garenne, je crois. Il y a d'autres associations qui ont inscrit un événement, une permanence qu'ils avaient déjà prévue. Par exemple, l'association Cercle, donc c'est un autre groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres à Marseille, donc propose une install party, plus précisément. Et voilà. Non, donc, il est possible à la fois de chercher les événements sous l'agenda du libre, donc agendadulibre.org, et
sur le site de la Fête des Possibles.
Et sur le site de la Fête des Possibles.
Et je rappelle donc une install party ou fête d'installation, c'est les gens viennent et sont accompagnés pour effectivement faire leur transition progressive vers le logiciel libre. Et le mot d'ordre de la fête, c'est possible. Donc, ces structures, donc groupes utilisateurs et utilisatrices, sont là pour démontrer que c'est possible aujourd'hui d'utiliser du logiciel libre, en tout cas de commencer à utiliser du logiciel libre avant peut-être d'en utiliser à 100%. Aliette, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message à faire passer, ou simplement rappeler le site web de l'événement et puis les dates importantes?
Oui, effectivement. Donc, allez voir sur la carte, fête-d-possible.org. Et voilà, je vous invite vraiment à participer au rendez-vous. Il y en a pour tous les goûts et je pense qu'il y aura vraiment des choses super chouettes. Donc, rendez-vous du 15 au 30 septembre.
Écoute, merci pour ce rendez-vous. Nous encourageons évidemment toutes les structures autour du logiciel libre l'an prochain à se mobiliser encore plus parce que c'est l'occasion effectivement de sensibiliser un public très large. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Isabella?
Non, c'est tout. Je pense qu'on a bien...
Écoutez, en tout cas, rendez-vous donc du 15 au 30 septembre. L'appartement de la transition à Paris, donc c'est du 13 au 16. Et rendez-vous donc sur le site fêtedespossibles.org et aussi sur l'agenda du libre pour retrouver les événements plus orientés logiciels libres. Aliette, on te remercie de
Merci
ta participation.
Beaucoup.
Merci beaucoup
et
à vous.
Et bon courage pour ces derniers jours avant le lancement de l'événement.
C'est précieux.
Merci Aliette, à bientôt.
Merci,
à bientôt.
À bientôt.
Alors, avant de changer de sujet, nous allons faire une petite pause musicale et j'ai une pensée amicale pour notre ami Christian Momon. Je sais qu'il adore cette chanson, enfin ce morceau. C'est donc une version piano de la Free Software Song, de la chanson du logiciel libre par Marcus Aist.
Désolé, le régisseur était en vacances et il sait plus ce qu'il fait. Thank you.
Excusez-moi, vous venez d'entendre donc une version piano de la chanson du logiciel libre par Marcus Est. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, donc sur Radio Cause Commune, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Donc, nous a rejoint Jean-Baptiste Kempf du projet Vidéolan et VLC, qui donc interviendra tout à l'heure d'ici une petite quinzaine de minutes sur la partie DRM avec l'avocate Marie Duponchel. Et maintenant, nous allons changer un peu de sujet. Parce que nous allons faire le point sur le sujet récurrent de cette émission depuis que nous avons commencé, qui est la directive sur le droit d'auteur. Donc rappelez-vous, lors de l'émission du 3 juillet, nous vous annoncions qu'il y avait un vote très important au Parlement européen. Donc Étienne, est-ce que tu peux nous faire un point de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé le 5 juillet 2018 lors du vote au Parlement européen? Et qu'est-ce qui va arriver d'ici donc, le 12 septembre 2018, car un nouveau vote va avoir lieu?
Effectivement, tu le dis, le 5 juillet, il y a eu un vote très important et d'autant plus important qu'il nous a été favorable. Il nous a mis dans une dynamique plutôt positive, même très positive par rapport à ce vote. On va peut-être revenir rapidement sur les enjeux de ce texte et pourquoi est-ce qu'on en parle finalement à chaque émission depuis le lancement de Libre à vous. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que c'est notre dossier chaud. Il faut savoir donc qu'il y a une révision en cours de la directive droit d'auteur. Alors pour rappel, nous, au cœur de notre critique, et de la critique en général sur ce texte, c'est l'article 13. Parce que l'article 13, il entend imposer aux plateformes, alors décrites comme les services de partage de contenu mis en ligne par les utilisateurs et les utilisatrices, il entend leur imposer de passer des accords de licence avec les sociétés de gestion de droits d'auteur. Alors c'est déjà compliqué, on peut imaginer de passer des accords sur l'ensemble des contenus potentiellement soumis aux droits d'auteur. Et afin d'assurer... Et c'est là où le bât blesse vraiment, c'est afin d'assurer finalement le respect de ces accords, ça imposerait donc aux plateformes de mettre en place des filtres automatisés pour vérifier que les contenus mis en ligne contreviennent ou non aux droits d'auteur. Et là, c'est ce qui nous inquiète tout particulièrement. Donc on avait effectivement, alors pour rappel également et pour sur les enjeux, lors de l'émission du 5 juin, du mardi 5 juin, donc on avait discuté du régime de responsabilité de ces intermédiaires techniques, des plateformes, vis-à-vis justement du contenu mis en ligne par les personnes qui utilisent ces services. Et c'est vraiment ça qui a remis en cause. Et tout l'enjeu, on avait parlé, c'était finalement, là on est dans un régime où les plateformes ne sont pas tenues de surveiller, même une interdiction de leur imposer de surveiller les contenus, donc elles doivent seulement agir après coup, c'est-à-dire que si on leur dit qu'il y a un contenu potentiellement illicite, là, elles doivent agir. Et là, tout l'enjeu et l'objectif de cet article 13, ce serait de leur imposer de faire un contrôle a priori, de vérifier en amont la licéité ou non des contenus mis en ligne. Le 3 juillet, on avait abordé plus spécifiquement la question des filtres, des systèmes de filtrage automatisés, et de montrer finalement à quel point ils sont intrinsèquement dysfonctionnels et pourquoi finalement, pourquoi est-ce qu'on parle si fortement d'un risque de censure. Et donc ça, voilà, on avait pu en parler notamment avec Pierre Bessac qui avait rédigé un article très intéressant sur le sujet. Et donc, moi, je vous invite, voilà, si vous voulez replonger dans ces enjeux-là, on a les émissions ont été retranscrites, et puis il y a tous les liens, comme à chaque fois, sur april.org.
Alors, il y a à la fois les podcasts qui sont sur le site de causecommune.fm, dans les archives, évidemment, de l'émission Libre à vous, et sur le site de l'April, il y a aussi les transcriptions qui sont faites par la géniale Marie-Odile. Donc, n'hésitez pas à relire pour, effectivement, vous remettre un petit peu dans le contexte de ce projet de directive droit d'auteur, et notamment de l'article 13. Et donc ce fameux vote 5 juillet.
Voilà, donc là le 3 juillet, on était donc à deux jours de ce très important vote. Alors pour comprendre ce vote du 5 juillet et comment on en est arrivé là, alors on avait déjà abordé, mais je pense que c'est bien peut-être de remettre très rapidement ces éléments, c'est-à-dire un peu d'avoir à l'esprit le parcours normal, on va dire, de l'élaboration d'une directive. Donc en septembre 2016, la Commission européenne propose un texte qui dès le départ était particulièrement inquiétant. Il y avait déjà cette germe, il y avait déjà finalement cette idée du filtrage automatisé. Une fois que la Commission, ça c'est de manière générale, propose une directive, le Conseil de l'Union européenne, qui serait un peu l'équivalent du Conseil des ministres, il y a les représentants de chaque État membre qui se réunissent sur chaque sur une thématique donnée, donc là, mon droit d'auteur. Et de l'autre côté, le Parlement européen, ces deux institutions, chacune de leur côté, vont élaborer leur version, quelque part, leur rapport sur la proposition de la directive. Et une fois que ces deux institutions ont leur propre rapport, leur propre version du texte. La Commission, le Conseil et le Parlement, ou du moins les représentants de ces institutions, se retrouvent pour négocier, on va dire, un compromis final, un texte final, qui, à la fin de ce parcours, sera soumis au vote du Parlement. Alors, au niveau spécifique du Parlement, en fait, c'est une commission parlementaire, c'est semblable, on a un système qui est relativement semblable en France, une commission parlementaire. Dans le cas de droit d'auteur, c'est systématiquement la commission des affaires juridiques, la commission jury.
Ça peut être aussi la commission culture.
Alors, je crois qu'elle a été saisie de droit, oui.
Oui, elle a été saisie pour avis. Effectivement, la commission au fond, c'est la commission juridique, qui n'a jamais été très favorable aux gens qui promouvent le partage, ouais. ou même simplement aux intérêts du public, on peut dire.
Oui, elle est connue par sa rigidité, on va dire.
Voilà.
Et ça s'est avéré malheureusement être le cas encore une fois cette fois-ci. Alors en juin, cette commission jury donc a développé son rapport, et en juin elle a donné mandat sur le rapport qu'elle a produit, donc un rapport tout à fait rétrograde comme on pouvait s'y attendre, en gros qui reprend sans modifier vraiment la position de la Commission européenne, donc filtrage automatisé et ainsi de suite. Et donc en juin, sur la base de ce texte, elle a donné ce qu'on appelle mandat au rapporteur, donc Axel Voss, pour aller défendre et porter ce texte dans ce que j'évoquais, donc la négociation interinstitutionnelle, le fameux trilogue avec la Commission et le Conseil. Bref. Et là, c'est une chose assez rare, mais il y a une procédure qui existe et qui permet à 10% des parlementaires de mettre au vote ce mandat pour chercher à rejeter le mandat donné au rapporteur. Et ça, c'était donc l'enjeu de ce vote du 5 juillet. C'était pour les parlementaires réunis dans ce qu'on appelle en plénière, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires ont pu voter pour dire non, on ne vous donne pas mandat pour aller défendre ce texte. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est là, alors c'est très intéressant déjà parce que nous, ça nous met aussi dans une dynamique. Ça permet, et c'est tout l'enjeu, là tu parlais du vote, effectivement la date cruciale du 12 septembre, là, les parlementaires, ça a ouvert le débat et ça va permettre aux parlementaires vraiment de voter sur le fond du texte, de pouvoir l'amender et de pouvoir, et c'est ça que nous on défend, de voter potentiellement un rejet de l'article 13, alors également de l'ensemble de la directive car elle contient très très peu d'avancées et surtout des menaces. Et particulièrement donc nous, ce qu'on défend, c'est le rejet de l'article 13 et c'est donc l'enjeu du 12 juin.
Alors, Donc en fait, le signal envoyé par le Parlement européen le 5 juillet, c'est qu'on veut rediscuter du fond du texte et on ne donne pas mandat donc à Axel Voss, donc le rapporteur de la Commission des affaires juridiques, pour aller négocier directement avec la Commission européenne et le Conseil. Donc le Conseil, c'est les gouvernements, le texte final. Il faut bien comprendre effectivement que côté Conseil, ils ont une propre position et effectivement le but après, c'est de converger. Donc là, le Parlement européen a envoyé ce signal. Nous, on veut revenir sur le fond pour voir soit si on peut corriger les effets négatifs de ce texte, et donc c'est les enjeux du retour en plénière là, soit carrément rejeter ce texte, qui est toujours possible. L'histoire de nos mobilisations le montre, qui a ACTA il y a quelques années a été rejeté, et plus anciennement encore, la volonté de mettre des brevets logiciels, en tout cas de valider les pratiques de l'Office européen des brevets via une directive brevets logiciels, avait été aussi rejetée. Donc là, on revient au fond dans la plénière qui va s'ouvrir dans quelques jours.
Tout à fait. Alors il faut quand même dire, nous, c'est pour ça aussi qu'on défend spécifiquement, plus fortement et de manière déterminée, le rejet de cet article 13, tout en voyant l'intérêt des débats de fond, c'est aussi de se dire qu'il y a eu beaucoup de tensions dans la préparation de ce texte, notamment avec des positions assez caricaturales, rappelons-nous, des opposants, des défenseurs de l'article 13, qui en gros balayaient d'un revers de la main toutes les critiques qui étaient faites contre l'article 13 comme étant finalement... l'action uniquement des GAFAM ou de personnes manipulées par donc Google et compagnie, et donc incapables d'esprit critique, etc. Donc vraiment très cynique et méprisant, on peut le dire. Donc on a aussi cette crispation qu'il y a autour, et on peut difficilement imaginer qu'on ait suffisamment de temps pour élaborer quelque chose qui soit un texte qui soit équilibré par rapport à la version qui est proposée. Alors après, on peut toujours être sur du moins pire, entre guillemets, mais je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de ça. Et ce qu'on observe, alors demain, il y a une date importante, demain, donc 5 septembre, c'est la date, c'est la date limite, pour les parlementaires, pour qu'ils puissent déposer les amendements, dont un amendement de rejet de l'article 13, donc on ne doute pas qu'il sera présent. Et donc on va voir sur quoi on va pouvoir travailler. Et on a déjà des prémices, donc le rapporteur Axel Voss et puis le parlementaire français qui est un des plus fervents et ardents défenseurs d'un droit d'auteur, on va dire figé dans une vision de l'ancien monde, hein, ont déposé leurs propositions qui...
Il s'appelle comment ce parlementaire ?
Ah oui, je voulais le nommer, il mérite pourtant, Jean-Marie Cavada. Et on voit qu'il propose des textes qui finalement, alors ils nous disent que ça change tout, mais qui tout aussi, voire encore plus liberticide peut-être même que l'article 13, imposant clairement, finalement, même s'ils disent le contraire, un filtrage automatisé et généralisé des contenus qu'on met en ligne.
Bah. Donc demain, en fait, on aura à la fois à disposition donc, le contenu de la proposition initiale qui est soumise aux parlementaires, ainsi que les différents amendements, ce qui permettra de voir effectivement les différentes actions possibles, et pour les parlementaires de voir est-ce qu'il y a des amendements de rejet de l'article 13. Alors là, on ne parle que de l'article 13, mais il y a d'autres articles qui sont aussi importants. Par exemple, les gens de Wikimedia sont très mobilisés contre l'article 11, pour ce qui concerne le droit voisin, c'est éditeur de presse. Mais nous, effectivement, on est plus focalisés sur l'article 13. Donc voilà, il y a beaucoup d'amendements qui vont être disponibles et qui, normalement, devraient être disponibles sur le site du Parlement européen dès demain.
De demain ou jeudi, mais assez rapidement. Là, la date limite pour les dépôts est demain. Donc, a priori, voilà, les versions officielles seront disponibles dans les jours à venir. Et c'est vrai que c'est là qu'on pourra mieux s'organiser aussi pour agir. Et alors, à défaut de rejet, peut-être de voir vers quelle direction. Mais c'est important, je pense, d'avoir un cap aussi ambitieux et déterminé qui nous permet aussi d'avancer avec peut-être plus d'énergie. Du coup, on peut se demander comment agir. Et là, c'est important.
J'allais te le demander.
Parce que nous, on peut effectivement, et c'est aussi le propre, l'intérêt d'une association comme l'April. Hein, on a du temps. Moi, j'ai cette chance de pouvoir avoir un temps permanent en semaine de pouvoir agir. Mais c'est sûr que d'avoir une action et une mobilisation citoyenne importante, c'est ça finalement qui a aussi un impact. C'est un impact déterminant. Alors clairement, le mieux, et c'est toujours le cas, on avait déjà pu l'exprimer lors des précédentes émissions, c'est de prendre contact avec les parlementaires. Déjà par courriel, idéalement, et encore mieux par téléphone. Alors, il y a un site, et on avait déjà aussi évoqué, de la campagne Save Your Internet. Alors, on vous mettra tous les liens sur april.org. Alors, il a fait peau neuve pour cette rentrée, pour ce vote à venir. Et ils ont un outil que je trouve très intéressant, parce qu'en fait, il permet de trier les parlementaires avec un visuel très simple pour savoir... comment ils ont voté le 5 juillet, donc a priori, quelles sont leurs positions vis-à-vis de l'article 13. En vert, ils avaient voté contre, donc pour les libertés informatiques, et en rouge, ils avaient voté pour le filtrage des contenus. Donc ça permet déjà d'avoir un aperçu de ceux qui cherchaient à convaincre, et puis après, c'est possible de trier aussi par groupe politique, donc ça permet à chacun, peut-être selon ses affinités, de prendre contact avec quelqu'un avec qui peut-être il sera plus facile de convaincre. Alors, il propose un générateur de messages. Nous, on recommande plutôt d'écrire directement un courriel. Déjà parce que ça évite un effet spam qui peut avoir être contre-productif. Et d'ailleurs, ça servait d'alibi pour les défenseurs, comme je vous le disais, de traiter la mobilisation, d'être au service des GAFAM. Hein. Alors, chacun appréciera la teneur, la justesse de ces attaques quand elle est faite à l'APRI, à Framasoft, à Wikimedia, à la Quadrature du Net, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, je pense que les parlementaires sont souvent assez sensibles aux prises de contact réelles, plus personnelles. Il n'y a pas besoin de développer un argumentaire forcément très abouti et très détaillé, dans le sens où ils en reçoivent énormément. Et là, c'est ce qu'on essaie en tant qu'April de leur proposer sur nos sujets. Mais ce qui leur intéresse et ce qui leur parle, je pense, c'est de sentir que la mobilisation est réelle. Il y a des vrais individus, il y a des vraies personnes qui se mobilisent et qui agissent et qui sont... Et le simple fait, en fait, de faire cette démarche-là les convainc aussi que les gens, pour eux, c'est quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas forcément une démarche qui est simple en soi. Et quand on prend ce temps-là, ça les convainc aussi de cela. Et c'est pour ça que l'idéal, et encore plus, c'est l'appel, parce que là, on montre vraiment qu'il y a une vraie personne, il y a un contact direct. Et dans un contexte où il y a une très forte tension de lobby, je pense que ça donne un corps humain et ça montre une réalité des inquiétudes. Et donc, un appel ou une prise de contact peut avoir un effet bien plus important, je pense, qu'on peut se le représenter. Maintenant, c'est un peu moindre, mais ça garde du sens et ça reste quelque chose de très utile, c'est tout simplement la mobilisation en ligne, sur les réseaux sociaux, Mastodon, Twitter, Diaspora... plutôt Mastodon et Twitter, effectivement, parce qu'ils ont, je pense, en termes de mobilisation, ça permet une visibilité qui n'est pas la même, mais tout relais, ne serait-ce que de l'information, est toujours utile. Alors, il y a différentes manières de faire. On peut peut-être, pareil, on a fait une actu vendredi, je crois, comment agir le 12 septembre, donc, avec le lien sur le site april.org. On détaille différentes manières d'agir. On peut peut-être juste évoquer la campagne Save Your Internet lance ce qu'ils appellent une Action Week.
SaveYourInternet.org.
.eu.
.eu. Ah, d'accord. Point alors, que je te demande, alors, c'est .eu, et donc, même si le titre du site est en anglais, il est traduit dans différentes langues, dont le français.
Pas intégralement, notamment l'outil où je vous disais pour la sélectionner les parlementaires, là pour le coup est en français effectivement. Et donc ils font une semaine d'action, du 4 au 11, le 11 la veille du vote, et chaque jour en fait, avec cette idée que chaque jour avec une thématique donnée. Alors aujourd'hui, c'est pour dédier aux défenseurs des droits humains et des libertés informatiques. Donc, c'est vrai que ça vise assez largement, mais je pense que c'est pour centrer notamment sur la liberté d'expression et les dangers vis-à-vis de ça. Et demain, ils appellent tous les développeurs et développeuses de logiciels, finalement tous ceux qui sont attachés à défendre le logiciel libre, de faire du bruit et de montrer, que les gens sont concernés par ça, s'inquiètent de ces sujets-là, et donc de faire du bruit en ligne, donc à utilisation de mots-clés, etc. Mais comme je vous le disais, tout ça est rappelé sur notre actu récente. Je pense que vraiment cet angle par jour, ça permet de montrer, et c'est ça qui est important, et ce qu'on défend aussi depuis le début, c'est qu'en fait, il y a une ampleur dans la mobilisation, mais une diversité aussi des personnes qui se mobilisent et des résistances, ce qui montre aussi une diversité des menaces qui sont perçues contre ce texte. Peut-être juste rappeler que dans tout cela, l'autre consolation, on peut appeler ça, mais il y a une exception, les forges logicielles qui, nous, alors, c'était mobilisé au début pour ça, donc les plateformes de création et de partage de code source pour la création, le développement de logiciels. Étaient concernées et donc auraient dû mettre des filtrages en place. Et par notre action et celle de d'autres, notamment de la campagne Save Code Share, on a obtenu l'exclusion du champ d'application de ce texte. Mais c'est parce qu'on a aussi réussi à donner de la visibilité. Donc on peut imaginer d'autres secteurs qui n'ont peut-être pas eu la même capacité de mobilisation. Donc c'est pour ça que c'est important de se réunir, d'agir et de faire du bruit pour dire non, quoi, comme on a fait avec ACTA, comme on a fait avec le brevet logiciel, et pas se laisser faire face au vieux monde.
Bah écoute, merci Étienne, je crois que c'est très clair. Donc les deux sites de référence, c'est april.org sur lequel il y a effectivement notre actu, et puis il y a une petite image sur la page d'accueil qui renvoie directement ensuite sur le site de campagne. Donc le site de campagne, donc, c'est saveyourinternet.eu, dont la partie mobilisation est disponible en français. On va changer, mais pas totalement de sujet, parce que on va aborder un sujet qui aurait pu faire l'objet d'ailleurs de débats dans la directive droit d'auteur. Qui aurait dû même, alors on va pas revenir sur l'historique et notamment l'absence de cette partie-là, mais donc on va parler effectivement d'ERM, qu'on va bientôt définir, et plus généralement en fait du thème du contrôle des usages privés considérés comme légitimes. Donc vous êtes sans doute encore nombreux et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre papier. Une fois que vous avez acheté ce livre papier, vous disposez de libertés fondamentales. Comme celle de le lire, comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. De même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table sur trois personnes, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes, avec un prix en plus. On ne vous dit pas, vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance. Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre, vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance. Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis, dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté, vous tapoterait l'épaule, là, il vous dirait « Non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. » Et puis de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, il faut que tu repasses à la caisse. Et pareil, là, tu portes des lunettes, tu dois prendre pas tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon, évidemment, c'est un peu Big Brother. Ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable, bien entendu. Ah, sauf qu'il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait, pas pour tout le monde, car certaines personnes, très nombreuses personnes et organisations, notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on ne va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc de nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et très généralement, on étant le producteur, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité, On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez de la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM, donc on va redéfinir après, bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé, mais aussi, surtout, par leur protection juridique. Et donc, c'est de cette informatique qu'on appelle déloyale dont il va être question avec nos invités. Donc, on va commencer par la personne qui est au téléphone pour être sûr qu'elle est bien avec nous. Donc, Marie Duponchel, maître même Marie Duponchel, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, bonjour Fred. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois à l'April. J'ai eu ce plaisir-là de travailler à tes côtés. J'ai également travaillé aussi dans d'autres associations du logiciel libre, en particulier sur le domaine de la protection via les DRM à l'époque, donc en 2010, 2011, 2012, où c'était un vrai enjeu et une vraie problématique. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis avocat et j'ai donc édité un livre suite à ma thèse sur le droit à l'interopérabilité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi et sur ce problème du régime juridique des DRM.
Alors exactement, nous en reparlerons. Donc ta thèse est intitulée Le droit à l'interopérabilité, étude de droit de la consommation. Alors effectivement, c'est l'un des mots sans doute les plus compliqués. C'est un bon exercice de diction. On essaiera d'expliciter ces termes qui sont que tout le monde ne comprend pas forcément, même parmi ceux qui pensent le comprendre comme certains experts juridiques. Mais c'est effectivement un mot important. Et quand tu disais que tu avais participé outre l'April à d'autres associations du Libre, il y avait évidemment l'association Vidéolan. Donc nous avons l'énorme plaisir aussi d'avoir Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Baptiste?
Ouais, bonjour. Merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Kempf. Je suis un Parisien depuis très longtemps et je suis un geek et je bosse sur VLC depuis 2004-2005, depuis longtemps. Et j'ai commencé à travailler sur le projet VLC et Vidéolan avant que ce soit une association. Et j'ai créé l'association en 2008 et depuis je gère le projet. Et maintenant, j'ai créé une entreprise pour justement pérenniser des solutions open source autour du multimédia, autour de VLC.
Alors, la société s'appelle Vidéolabs et c'est pour promouvoir des solutions même libres, parce qu'après tout, on est en France, on peut employer le terme logiciel libre. Je sais bien que tu préfères le terme open source.
Alors, je ne préfère pas, c'est juste cette très mauvaise habitude parce que je ne parle jamais en français. Donc moi, je dis ça de façon interchangeable, parce qu'en anglais, c'est vrai, c'est un terme qui n'est pas très bon parce que l'anglais est limité là-dessus. Mais non, nous, dans l'association et dans l'entreprise, on ne fait que du logiciel libre et que du code PyLeft.
Et quand tu parlais de... Alors CopyLeft, c'est une des licences effectivement du logiciel libre. On ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Ça sera l'occasion d'une émission un jour. J'ai oublié ma question. Ah non, quand tu me disais que tu étais un geek, en fait, dans le sens, là, développeur vraiment de logiciels libres, informaticien.
Moi, je suis tombé dedans en fait assez tôt et j'ai toujours voulu être développeur. Je me retrouve un peu président de l'association et j'ai créé la boîte peut-être parce que j'étais le moins bon des développeurs et donc il fallait bien quelqu'un qui fasse les tâches administratives. C'est vrai que moi c'est ça qui m'amuse et surtout je travaille sur des projets avec Vidéolan et VLC qui sont des projets qui sont utilisés par le plus grand nombre. Donc je fais pas. Ce qui nous amuse, c'est de travailler pour les utilisateurs et d'avoir des millions d'utilisateurs et pas de faire comme beaucoup aujourd'hui on a dans le libre et l'open source, justement des serveurs, des solutions qui sont au niveau du serveur. Nous, on travaille pour le grand public, on est une association pour le grand public.
Alors d'ailleurs, la deuxième question, ça va être effectivement de présenter un peu plus en détail, rapidement cependant, à la fois VLC, l'association Vidéolan, mais je voudrais quand même rappeler que la plupart des gens ignorent que l'outil qu'ils utilisent sur leur ordinateur, qui est représenté par un cône orange et blanc, est déjà un logiciel libre, donc VLC, et que c'est sans doute peut-être le logiciel libre français ou l'un des plus téléchargés au monde. Je ne connais pas les statistiques, mais c'est absolument effarant de voir ce nombre de téléchargements. Enfin, c'est un très, très gros succès.
Il n'y a pas de doute. En fait, c'est non seulement le logiciel libre français le plus utilisé au monde, mais c'est aussi le logiciel français le plus utilisé au monde. On parle de 350 à 500 millions d'utilisateurs. Dans le libre, il n'y a que Firefox au-dessus, ça c'est clair. Ou peut-être le noyau Linux, mais en tout cas, en tant qu'utilisation d'application, c'est clairement des logiciels les plus gros. Et c'est intéressant qu'on parle de droits d'auteur et de DRM. Une des raisons, en fait, justement, pourquoi c'est un des logiciels qui a été créé en Europe, c'est justement parce que le droit français et le droit européen est beaucoup plus, ou en tout cas était beaucoup plus cool sur la propriété intellectuelle, notamment au niveau des brevets, que le droit américain ou le droit asiatique.
Alors, est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots ce que fait VLC concrètement ?
Donc VLC, c'est un lecteur multimédia. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins problématique, mais pendant très longtemps, c'était très difficile de lire des fichiers. Il y avait plein de formats, et pour chacun de ces formats, il fallait installer des codecs, installer plein de...
C'est quoi un codec ?
Un codec, c'est en fait l'algorithme de compression et de décompression. Parce qu'en fait, pour vous donner une idée, si jamais on ne compressait pas en fait la vidéo, chaque seconde de vidéo en fait aurait besoin de quasiment un DVD. Donc on pourrait regarder un film, on ne pourrait pas avoir 2000 DVD pour regarder son film. Donc en fait, on compresse, on détruit un peu l'image, et comme votre œil il est pas génial, bah il y voit que du feu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'origine, on avait des petits logiciels qui étaient des lecteurs, et on installait plein de plugins, des codecs, pour lire les vidéos. Et même si la plupart de ces lecteurs étaient libres, en fait, la plupart du travail, il est fait dans ces plugins, et ces plugins, ils ne sont pas ouverts. Donc VLC, ça a été le premier à justement arriver avec des codecs et à rendre simple. Donc en fait, VLC, l'idée, c'est d'ailleurs la blague aujourd'hui, c'est VLC, ça c'est tout ouvrir, ça pourrait même ouvrir des VHS. Bon, c'est pas exactement vrai, mais c'est vrai que VLC, les gens l'utilisent parce que ça marche. Et ça, c'est vraiment un bon point. C'est pas les gens... Donc c'est cool parce que les gens utilisent parce que c'est bien et pas parce que c'est libre.
Oui, c'est le premier argument. Je me souviens de ma voisine qui me dit « J'ai un problème avec une vidéo que je n'arrive pas à ouvrir avec mon lecteur sur Windows. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je lui dis « Écoute, installe VLC. » Elle était ravie, effectivement. C'est la preuve par l'exemple que ça marche, effectivement.
Le souci, c'est que en fait, les gens ne savent pas que c'est libre. Donc, ça serait bien qu'on essaye. Hein, mais quand on fait des statistiques, c'est moins de 0,01% des gens qui viennent sur notre site qui savent ce que c'est le logiciel libre. Donc ça, c'est vraiment gênant. Mais en tout cas, ça montre que quand on apporte quelque chose qui est bien et qui fonctionne bien, les gens, ils aiment.
Alors, là, il y a beaucoup plus de monde qui vont savoir que c'est un logiciel libre. En tout cas, toutes les personnes qui écoutent l'émission le seront. Et effectivement, c'est une grosse ignorance du côté libre, effectivement, de VLC. Alors, après cette petite présentation, donc, on va demander à Marie de nous faire... Alors, c'est un peu le point difficile, hein, mais après tout, spécialiste du sujet, de nous faire une définition ou présentation succincte de la notion de DRM. Qu'est-ce qu'un DRM, Marie ?
Alors, pour l'instant, on va rester très simple sur la définition parce que c'est vraiment ça fait partie des problèmes, hein, le problème de la définition des DRM. Moi, je le définirais en fait tout simplement comme un système technique en fait qui permet à un détenteur de droit, on va parler là, je vais peut-être dire un gros mot, mais droit de propriété intellectuelle, de spécifier en fait ce que vous pouvez faire avec le contenu objet du droit de propriété intellectuelle. Est-ce que je peux copier ma vidéo ? Est-ce que je peux la transmettre ? Est-ce que je peux la sauvegarder ? Est-ce que je peux l'ouvrir sur mon ordinateur, sur mon smartphone, sur ma tablette ? Voilà, c'est donc un petit logiciel qui vous dit concrètement ce que vous pouvez en faire.
Alors, tout à fait, c'est une présentation tout à fait claire. DRM, donc ça vient de l'anglais, donc Digital Rights Management. Alors, je n'ai pas du tout l'accent de Jean-Baptiste.
Donc, c'est pour ça que je lui laisse.
Moi aussi, mais bon, finalement, je l'ai fait. Donc, dans cette notion, il y a de gestion des droits, il y a deux choses. Il y a l'information sur les droits et puis la gestion des droits. Effectivement, et donc là, effectivement, ce que tu expliques, c'est que les DRM, aujourd'hui, sont avant tout des outils de gestion des droits. Par effectivement les titulaires de droits qui mettent en place effectivement via cet outil technique un contrôle des usages vu qu'ils décident eux-mêmes des droits qu'ils accordent au public. Est-ce qu'on... Vas-y.
Et en anglais, en fait, on utilise effectivement la notion de DRM, c'est-à-dire Digital Rights Management, c'est-à-dire la gestion des droits numériques. Et en France, on a une définition qui est un tout petit peu différente et qui diffère un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'on a des grosses discussions à ce sujet-là, puisque moi, j'utilise souvent le mot MTP, c'est-à-dire mesure technique de protection. Ce qui ne peut pas forcément signifier la même chose que gestion des droits numériques.
Alors, tu
parles là de protection des droits d'auteur, véritablement, avec ces systèmes techniques.
Alors notamment, tu utilises ce terme parce qu'effectivement, depuis la loi droit d'auteur en France en 2006, qui découle directement, avec quelques trucs en plus, de la directive européenne sur le droit d'auteur de 2001, donc celle-là qui est en cours de révision, effectivement, le terme consacré, c'est mesures techniques de protection. Mais ce qui montre plus déjà la volonté réelle, mais en fait, le vrai terme qui devrait être utilisé, que nous, on utilise évidemment, qu'on préfère utiliser, c'est les dispositifs de contrôle d'usage ou menottes numériques, voire verrous numériques. Alors, une fois, donc là, on a calé un petit peu une première définition des DRM, sans revenir sur tout l'historique, parce qu'il faut quand même savoir que ça descend tout ça de 1996, de traité à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, donc l'OMPI. Donc imaginez le monde d'Internet du numérique en 96, et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. En fait, la loi sur les DRM, donc les mesures techniques, les dispositifs de contrôle d'usage, auraient dû aussi évoluer. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va cibler beaucoup la vidéo avec Jean-Baptiste et Marie, mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de DRM dans la vie quotidienne qui permettent de comprendre aux gens que finalement, on vit une vraie overdose de DRM ? Jean-Baptiste, Marie ?
Les capsules Nespresso, où ils ont essayé d'empêcher d'avoir des capsules compatibles. Aujourd'hui, il ne faut pas acheter Nespresso pour d'autres raisons, notamment écologiques, mais c'était vachement pratique, ça c'est vrai, et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher Monoprix et tout ça, de faire des capsules beaucoup moins chères. Et ça, c'était juste pour des raisons d'incompatibilité et d'attaque juridique. Ce n'est pas exactement des DRM, mais c'est exactement la même idée. Vous n'avez pas le droit de mettre le café que vous voulez, vous mettez le café que je vous vends et, dont j'ai fait l'approvisionnement et dans lequel j'ai mes marges, etc.
Marie, vas-y.
On avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps en fait des petits systèmes qui vous disaient si vous ne mettez pas la cartouche imprimante de ma marque, votre imprimante ne marchera plus. C'est des exemples concrets, c'est à la limite des mesures techniques de protection, mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique en fait.
Étienne, tu as un exemple ?
Ouais, je pense à un exemple. Moi, je sais que je suis amateur de jeux vidéo. Quand je suis obligé d'être connecté à Internet pour jouer à un jeu qui, pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais pour vérifier que je l'utilise comme contenu ou que je n'ai pas une version qui ne serait pas autorisée, quand je suis obligé de me connecter, je pense que ça relève même de cette même logique.
Et moi, je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin, ça fait rigoler aujourd'hui. Dans 20 ans, c'est carrément possible. Quand on voit l'évolution de la réalité augmentée ou même des Google Glass, aujourd'hui, c'est ridicule. Franchement, dans 30 ans, ce n'est pas une blague, quoi. C'est tout à fait possible.
D'avoir l'accès à la pleine expérience. C'est-à-dire, si vous avez nos lunettes, vous aurez une expérience supplémentaire.
Non, mais c'est pas déconnant de se dire que dans 15 ans, 20 ans, tout le monde aura des lunettes qui rajouteront des informations plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas. Ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations. Et donc, c'est pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé. Et donc, à ce moment-là, oui, mais non, vous n'avez pas le droit de passer par là, vous n'avez pas le droit. Donc, il y a des possibilités vraiment gênantes. Moi, je n'utilise pas de DRM. Moi, je dis...
Tu utilises quoi ?
Je ne parle pas de management à chaque fois. Je ne dis pas gestion, je dis limitation. Parce que c'est ce que je dis aussi en anglais. Je parle de digital right limitations. Et parce qu'en fait, le management, il a l'impression qu'il y a une gestion, comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits. Et ça, c'est très important.
D'ailleurs, quand tu parles de l'acronyme en anglais, une autre utilisation de l'acronyme en anglais, c'est Digital Restriction Management. Donc, c'est dans la même logique de restriction. Marie, tu voulais rajouter un exemple ?
Je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour, mais on a eu des gros exemples. Ils sont en train de revenir dessus, mais dans les livres numériques. Ça a été vraiment un des secteurs où ils ont utilisé à outrance les DRM et ils se sont rendus compte de leur bêtise. Ils sont en train de faire machine arrière complètement, quoi.
Alors, c'est notamment un sujet qu'on abordera dans... Je précise d'ailleurs que c'est une première émission sur les DRM, parce que comme vous allez le comprendre, c'est un large champ. Et nous réaborderons ce dossier-là, notamment sur la partie livre, avec notre libraire préféré, Magali Garnero, qui est à la fois libraire et une activiste du logiciel libre et qui connaît bien. Et on parlera aussi des choses vertueuses, comme ceux qui offrent, qui proposent des plateformes, des solutions sans DRM. Mais là, on va plutôt parler de la problématique. Alors, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu techniquement, parce que très récemment, j'étais chez mes beaux-parents et on a eu une discussion entre DVD, Blu-ray, donc les DVD, machin, et j'ai essayé de leur expliquer la différence, en fait, de type de protection. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors, en essayant d'être le plus simple possible, même si ce n'est pas évident, d'expliquer comment un DRM fonctionne techniquement en prenant deux exemples, ce que j'appelle, moi, les DRM 1.0, c'est-à-dire le DVD, et les nouveaux DRM type, par exemple, Blu-ray.
Ok. Alors, l'idée du DRM, c'est qu'on vous donne un média numérique, quelle que soit la forme, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du texte. Et en fait, on le chiffre. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme de la crypto de secret. C'est-à-dire qu'on brouille avec une clé et seules les personnes qui ont le droit d'ouvrir la clé du coffre vont pouvoir ouvrir le média et être capables de le lire. Donc, c'est comme ça en fait qu'on fait quand on envoie des emails ou qu'on fait du HTTPS. C'est une utilisation normale. Sauf que là, vous êtes dans le cas où on vous donne un média qui est donc chiffré et on vous donne la clé en même temps, puisqu'il va bien falloir lire sur votre matériel, et on vous dit bah, je te donne le média chiffré, je te donne la clé, mais surtout, tu ne regardes pas la clé. Et c'est le problème fondamental des DRM. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez dire, bah, attends, j'ai la clé, j'ai acheté un nouvel ordinateur, je veux lire mon fichier, mon DVD, mon Blu-ray sur mon nouvel ordinateur, j'ai changé de système d'exploitation, que ce soit des systèmes d'exploitation libres ou des systèmes d'exploitation pas libres, mais je veux toujours le lire. Et là, on te dit, ah ouais, mais t'as pas le droit de regarder la clé. Et toi, tu dis, bah écoute, t'es gentil, j'ai payé mon DVD, je regarde quand même la clé. Et en fait, donc déjà, par conception, en fait, c'est quelque chose qui est complètement cassé et même conceptuellement faux et qui ne peut pas fonctionner. Et donc, la seule façon pour que les gens qui veulent que vous ne regardez pas votre clé arrivent à leur fin, c'est qu'en fait, ils vont mettre des choses dans votre ordinateur que vous ne contrôlez pas. Et donc, en fait, arrive tout ce qu'on appelle l'informatique déloyale, où en fait, il se passe des choses sur votre ordinateur, que ce soit de l'espionnage, tout ce que vous pouvez faire, et c'est une partie de l'ordinateur qui ne répond pas à vous. C'est-à-dire, et c'est maintenant, même dans les microprocesseurs, et le but principal de ça, c'est de gérer les problèmes de DRM. Et donc, ça, c'est un glissement qui est gravissime, parce que, je vais dire, un peu en rigolant, là, on parle que de DRM, c'est pas très grave, c'est juste des DVD et des Blu-ray, mais ça veut dire qu'on se met à avoir des parties sur vos ordinateurs que vous ne contrôlez plus. Et là, après, on parle des affaires Snowden, on parle des problématiques de liberté fondamentale et on parle de politique. Et à partir du moment où vous ne contrôlez plus votre ordinateur alors que vous faites tout sur un ordinateur aujourd'hui, on a un glissement qui est très grave. Et en fait, les industries, parce que c'est bien un problème d'industrie culturelle, entre guillemets culturel, pousse en fait à avoir de l'informatique que vous ne contrôlez plus et où vous êtes contrôlé par votre machine. Et ça, c'est très grave pour plein d'autres raisons. Alors, pour répondre, en fait, il n'y a pas vraiment... Les deux générations, ce n'est pas vraiment ça. Le DVD, en fait, il y a une clé par disque et dès que vous avez la clé, en fait, une clé fondamentale, ça marche pour tout le monde. La partie, ce que j'appelle Blu-ray, c'est la version 1.1, quoi. C'est en fait, la clé, elle dépend du lecteur et du disque et du logiciel qui lut. Mais la version 2 des DRM, ce n'est pas celle-là. La version 2 des DRM, c'est celle où tout se fait en ligne. C'est-à-dire que dès que vous achetez un film que vous, sur Amazon, sur Netflix, etc., en fait, vous ne l'achetez pas, vous le louez. Et tout ce système-là, en fait, n'est fonctionnel qu'au bon vouloir des gens qui et des plateformes.
Alors, effectivement, tu as raison de me corriger sur la numérotation des DRM, mais l'idée que j'en retiens, et ce que j'ai aussi essayé d'expliquer effectivement aux gens avec qui j'en discutais, c'est qu'à l'époque des DVD, bah, techniquement, c'était des DRM qui étaient faciles à comprendre et à contourner, et donc ça n'a pas posé de problème technique, notamment à VLC, pour pouvoir lire des DVD sur des systèmes libres, parce qu'effectivement, ce n'était pas prévu par ces industries culturelles à la base, mais que plus les DRM s'améliorent, plus ça devient compliqué, même si en fait, techniquement, on le sait, tout ce qu'un être humain est capable de mettre en place va être cassé par un autre être humain, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Ah,
ça, c'est clair. On parle le chiffrement au niveau de DVD, c'est une blague. C'est-à-dire que votre téléphone le casse en une seconde. Le chiffrement sur les Blu-ray, on parle du chiffrement de qualité militaire des années 2010, quoi. On parle vraiment de choses très, très compliquées, très difficiles à casser. Mais en fait... Et en fait, il faut bien que les gens comprennent l'important des DRM, c'est pas d'empêcher la copie. Donc, et ça, c'est le gros mensonge que les gens ne comprennent pas. Et tous les hommes politiques, en fait, ressortent, ils pensent que c'est du digital right management. C'est vraiment pour contrôler le droit d'auteur. Et en fait, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Si jamais les DRM fonctionnaient, bah, on n'en aurait pas, on n'aurait pas tout disponible en fait, sur les sites de piratage. Or, la moindre chose qui passe à la télé, dans la à peu près entre 20 minutes et une demi-heure, c'est sur The Pirate Bay, sur plein d'autres sites. Donc, tous les contenus sont disponibles, en fait, sur des sites de piratage. Et donc, c'est bien que bah, leur système de protection n'est pas efficace et ne fonctionne pas. Et ce qui est marrant, c'est que le terme français, c'est mesure de technique protection, et il y a efficace dans la loi. Ce n'est pas efficace. Oui, mais en fait, leur but, ça n'est pas d'empêcher le piratage. Leur but, c'est de contrôler la chaîne de distribution. Et là, même quand on en parle, la plupart des hommes politiques qui votent ces lois ne comprennent pas ça. Le but, c'est que votre café, vous l'achetiez chez Nespresso, qu'il l'a acheté chez son grossiste, qu'il l'a acheté dans toute la chaîne sur laquelle il a récupéré de l'argent à tous les niveaux. Vous voyez bien au cinéma, c'est toujours les mêmes distributeurs, c'est toujours les mêmes, il y a 3 ou 4 majors, et l'important, c'est que quand vous achetiez votre lecteur de Blu-ray, vous achetiez à Sony, qui a payé sa patente à leur pote de Dolby, qui a payé sa patente à leur pote de Universal. Et le but, c'est d'éviter qu'il y ait d'autres canaux de distribution qu'ils ne contrôlent pas, sur lesquels ils pourraient avoir de la concurrence. Parce que quand on voit qu'on doit acheter ou louer pour 24 heures un film HD à 17 euros, c'est une blague. Et en fait, il n'y a aucune concurrence parce qu'en fait, ils contrôlent l'ensemble de la chaîne de distribution et ils empêchent qu'il y ait le moindre industrie culturelle qui ne soit pas contrôlée par eux.
Alors, c'est extrêmement clair. Et on a aussi quand même compris, effectivement, que la technique a ses limites malgré tout. Et donc, en fait, les promoteurs de ces solutions d'informatique déloyales, en fait, outre le fait de pousser les DRM, à un moment, on dit, oui, mais les DRM, il y a des limites, on va donc mettre une protection juridique interdisant le contournement des DRM. Alors là, je fais appel à Maître Duponchel, qui a suivi ce dossier de près. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, justement, sur cette protection juridique, et je mets des guillemets, évidemment, des DRM?
Alors, c'était très intéressant ce que JB a exposé, puisque c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit dans lequel a été mis en place le système des DRM et le système juridique des DRM qui l'entoure. Concrètement, on s'est très vite rendu compte, enfin tu l'as dit Fred, le régime juridique c'est 1996, donc il n'y avait pas l'Internet grand public comme on l'a aujourd'hui. On a un traité international, 2 traités internationaux en 1996 au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On a une directive en 2001, la directive EECD, et on a un texte en 2006 qui est la loi d'AFSI, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Concrètement, on s'est très vite rendu compte que, comme dans beaucoup de textes juridiques, la loi est là, mais la performance technique et la performance des geeks est là aussi. Et dès qu'il y a un DRM, il y a la technique à côté qui permet de, entre guillemets, je mets bien des guillemets, de craquer le système des DRM. Si on n'avait pas mis de protection juridique donc pour empêcher ces actes techniques, les protections par le biais des DRM auraient été totalement inefficaces. C'est vraiment cet enjeu-là, et c'est vraiment ça qui a été mis en avant quand on a commencé à discuter d'une protection juridique du DRM. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'avez pas le droit de toucher au DRM, même si vous savez le faire.
Et quel que soit l'usage finalement, même si c'est un usage légitime.
Alors, c'est là où il y a eu des grosses discussions, c'est que on a mis en avant, et ça a été mis en avant dans toutes les discussions, à toutes les différentes phases, 96, 2001 et 2006, c'est vous nous mettez des protections techniques, effectivement, pour empêcher les violations du droit d'auteur et des droits voisins, mais ces protections techniques peuvent empêcher certains droits légitimes pour les particuliers. Je pense, et ça va parler à tout le monde tout de suite, c'est ce qu'on appelle le droit à la copie privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit, quand il a un contenu numérique, il a droit à ce qu'on appelle une copie privée. C'est-à-dire qu'il a le droit de garder pour lui, de faire un usage pour lui et de le transférer sur le support de son choix. Sauf que si vous mettez un obstacle technique comme les DRM, vous ne pouvez pas faire la copie privée, puisque concrètement, il y a un logiciel sur votre film qui vous empêche de faire la copie privée. Et donc certains se sont dit, si on a un obstacle technique, je vais le casser et le problème sera réglé. Voilà, c'est cette problématique-là qu'on a eue et on a décidé d'empêcher le craquage des DRM. Et on est en France. On a des militants du logiciel libre qui sont intervenus. Alors en 2006, moi, j'ai pas eu l'occasion, et en 2001 non plus, de connaître la bataille que vous avez eue sur ce sujet-là, mais je sais que ça a été épique et que c'est des grands souvenirs pour les membres de la communauté du logiciel libre. Mais donc on a eu une forte mobilisation pour qu'on ait une modification des textes, notamment pour favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on doit permettre de partager les contenus et qu'on doit pouvoir permettre différents logiciels d'échanger entre eux les données, quels que soient les obstacles techniques et quels que soient les DRM qui puissent exister. Et là, on a beaucoup de débats, on a beaucoup de discussions sur l'interopérabilité, et on a des logiciels comme VLC qui visent précisément à ça. C'est-à-dire, bah, moi, je constate qu'il y a plusieurs formats, je constate qu'il y a des DRM. Moi, j'ai les moyens techniques pour permettre en fait à tout le monde de lire son contenu où il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Je veux donner cette possibilité technique à tout le monde, mais la loi ne me le permet pas. Et aujourd'hui, on a eu une interprétation des textes grâce à l'intervention de l'April, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard sur le Conseil d'État, qui est intervenu en 2008.
Alors, on va y revenir assez rapidement, parce qu'en fait, le temps passe très vite. Donc, effectivement, tu as défini un mot important qui est l'interopérabilité, qui est effectivement fondamentale, et on aura l'occasion d'y revenir. Effectivement, par rapport à ma question tout à l'heure sur les DVD et les Blu-ray, j'avais évidemment en tête aussi la situation juridique en France, donc depuis la loi droit d'auteur de 2006. À l'époque, il y avait une incertitude très importante pour savoir est-ce que VLC avait légalement le droit de contourner donc le DRM des DVD pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, et que effectivement donc l'April a fait un recours au Conseil d'État. La décision du Conseil d'État nous a conforté par rapport à cette procédure, et donc effectivement VLC peut légalement contourner le DRM des DVD car c'est une mesure technique jugée non efficace. Mais aujourd'hui les mesures techniques deviennent efficaces, et je ne sais pas si Jean-Baptiste et Marie, vous voulez peut-être revenir sur l'épisode de Blu-ray et votre saisine de la structure qui est censée réguler en France les mesures techniques, ou simplement expliquer la situation par rapport à l'actualité.
Pour faire simple, en fait, après cette loi, il y a eu une agence, une haute autorité, comme on sait les faire en France, qui servait à rien, qui s'appelait l'ARMT.
Alors, autorité de régulation des mesures techniques
de protection. Qui servait à rien, qui n'a même pas rempli ses rapports. Quand on appelait, il n'y avait personne. Et en fait, à un moment, à un moment de la loi Hadopi, ils ont mergé ça dans Hadopi. Ce qui n'était pas complètement idiot de fusionner ces deux trucs-là. Mais sauf que nous, on avait des questions techniques, c'est-à-dire, eh ben, en fait, comment il faut interpréter la réponse du Conseil d'État qui n'était pas forcément très claire, et comment on faisait. En fait, parce que la partie VLC-DVD, c'était en 2001, donc c'était avant DATFI, et là, on était après. En fait, ils n'ont rien compris. Donc, on a passé beaucoup de temps avec Marie. Ils nous ont fait perdre notre temps. Ils nous ont répondu 40 pages, on n'a rien compris. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas compris la question. On a passé deux fois, en fait... on a passé deux fois du temps avec Marie là-bas. Moi, je suis allé là-bas. En fait, ils n'ont absolument rien compris. Donc, c'était un peu une perte de temps, mais c'était pas mal. Ça montrait bien qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'ils faisaient. Et surtout, ça a continué à montrer qu'Adopi, c'était vraiment une catastrophe qui servait juste à utiliser nos pognons.
12 millions d'euros par an, je crois, pour rien, quoi, en fait.
Alors, si un petit peu moins maintenant.
Un petit peu moins.
On n'est peut-être qu'à 9, mais c'est 9 millions dépensés dans le vent.
Et alors, vous, vas-y, Marie.
Alors concrètement, en fait, c'est ça. En fait, dans la loi DATFI, la mobilisation qu'il y avait eu sur la loi DATFI en 2006 avait permis en fait de mettre des petites dispositions en fait dans le texte, dans le code de la propriété intellectuelle, qui disait que vous aviez le droit de mettre des mesures techniques de protection, mais que ça ne devait pas porter atteinte à l'interopérabilité, c'est-à-dire que vous ne deviez pas empêcher l'échange. Et tout ça, virgule, parce qu'on met toujours des petites virgules dans les textes, virgule, dans le respect du droit d'auteur. Et face à un texte comme ça, ils avaient créé donc à l'époque la RMT puis la DOPI, une autorité qui était en charge de régler les problèmes. C'est-à-dire que si votre interopérabilité est empêchée par la DRM, on vous met une super autorité qui vous permettra d'échanger, de régler les problèmes entre vous avec les consortiums et tout ça. On interviendra et on vous aidera à régler les problèmes. Et donc c'était la RMT et après ça a été la DOPI. On avait deux possibilités à ce moment-là. C'était tout nouveau, c'était tout beau et c'était tout gentil. C'était à l'image des textes, c'est-à-dire que c'était flou et que ça n'a pas servi à grand-chose. C'est qu'on avait une procédure contentieuse qui était à la disposition et on avait une procédure pour avis. Procédure contentieuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous demandez à quelqu'un l'accès aux informations qui vous permettent de contourner légalement les DRM. Cette personne ne veut pas vous le donner, vous faites une procédure pour avoir sa condamnation et les informations. Le problème de ce type de procédure, c'est qu'il faut déjà faire une mise en demeure. La majorité des acteurs de ce secteur-là sont aux États-Unis. Autant vous dire qu'une procédure contentieuse en France devant la Hadopi, ils s'en fichent complètement. Et deuxième élément, c'est qu'on peut vous demander de payer en fait, concrètement pour avoir ces informations essentielles. Et donc, on avait saisi pour avis. en leur demandant de nous expliquer comment ils interprétaient, eux, le texte et comment ils pouvaient permettre donc à un logiciel VLC, tout à fait légal, qui fait en fait l'interopérabilité tout à fait légalement, de contourner des DRM alors que ce n'est plus possible puisqu'on ne vous donne pas les informations pour le Blu-ray. Et c'est là où on a eu, on a eu Adopi dans toute sa splendeur qui est intervenue.
Alors, on va faire une petite pause musicale parce que le temps passe. Alors, ne voyez aucun rapport avec ce qu'on vient de dire par rapport au nom de la chanson qui va arriver, du morceau qui va arriver. C'est Sneaky Snitch, donc ce qui veut dire le délateur ou la délatrice sournoise de Kevin MacLeod. Et on se retrouve juste après. De retour sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site cause-commune.fm partout ailleurs. Nous venons donc d'écouter Sneaky Snitch. Nous étions en train de discuter DRM donc avec mon collègue Étienne Gonu, Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan, VLC et Marie Dupont-Chel, avocate. Jean-Baptiste, tu me disais pendant la pause que tu avais un petit chose à rajouter marrante sur l'interopérabilité ou sur les DRM.
Ouais, en fait, sur l'interopérabilité, c'est assez marrant. C'est qu'en fait, donc vraiment l'idée de l'interopérabilité, c'est d'être capable de lire sur tous les supports. Et en fait, le logiciel libre, c'est pas mal, c'est que comme le code source, il est libre, il est là, on peut se dire de façon assez probable que VLC, dans 10 ans, il sera toujours là. Il sera peut-être pas aussi utilisé, mais il sera toujours là. Et en fait, on a eu une des sociétés des GAFAM, je vais pas donner le nom parce que mais ça va vous faire sourire, qui en fait s'est retrouvée avec un DRM d'il y a quelques années. Évidemment, les DRM, tous les ans, ils en font une nouvelle version, ils changent, etc. Et ils ont été un petit peu embêtés parce qu'ils n'étaient plus capables de lire leurs propres fichiers. Et ils nous ont demandé si, par hasard, discrètement, on ne pouvait pas rajouter, en fait, dans VLC et FFmpeg, une façon de déchiffrer les fichiers, c'est-à-dire de casser leurs propres DRM, parce qu'ils avaient plein d'utilisateurs qui leur pourrissaient leur support en disant « ça ne marche pas ». Donc, c'est vraiment...
Et vous l'avez fait ou pas ?
Je ne répondrai pas à cette question, il faut aller regarder le code de VLC. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, c'est que toute cette partie de DRM ça n'est, et de contre l'interopérabilité, c'est juste pour faire des gains à court terme, pour gagner de l'argent à court terme sur les sorties, la musique et sur les abonnements. Mais en fait, c'est une catastrophe à long terme, à moyen terme, pour la conservation de la culture.
D'ailleurs, tout à l'heure, Marie parlait de la mobilisation en 2006 de la communauté du logiciel libre contre le DRM dans la loi de droit d'auteur française. À l'époque, il y a eu aussi des bibliothécaires qui se sont fortement mobilisés pour des questions tout simplement d'archivage. Tu viens de parler des GAFA, mais des ressources numériques qui sont sur DRM et qui, dans 20 ans, ne seront plus disponibles alors que même la ressource sera dans le domaine public, l'archivage est fini. Il y a aussi les représentants d'associations de personnes handicapées qui se sont mobilisés parce que bah, les DRM posent un certain nombre de problèmes très, très importants. Donc voilà, c'est effectivement pas que le logiciel libre. Et on n'a pas évoqué les histoires d'espionnage. Si, tu l'as évoqué un petit peu, d'espionnage via les DRM. Donc pour les plus anciens d'entre nous, on se souviendra en 2006 du Rootkit de Sony qui, sur un de leurs... c'était un CD ou un DVD ?
CD.
Un CD permettait d'avoir un contrôle à distance de votre ordinateur.
Et le plus drôle, c'est que le logiciel dont était dérivé le Rootkit, en fait, était dérivé d'un logiciel Videolan. Donc c'était en plus une violation de la propriété intellectuelle de Videolan.
Voilà, une violation du droit d'auteur de la Videolan. Bon, franchement, Marie, donc nous sommes toujours sur la partie DRM. Tu parlais tout à l'heure effectivement de l'exception pour copie privée, qui n'est en fait qu'une exception actuellement, ce n'est pas un droit. Tu parlais aussi de l'interopérabilité. Est-ce que tu pourrais nous faire juste un petit point sur ta thèse, et notamment parce que je crois que toi, tu milites pour un droit à l'interopérabilité, bah, évidemment au niveau international et au niveau européen.
Oui, alors moi je me suis préoccupée en fait d'un acteur qu'on oublie tout le temps quand on parle de technique et quand on parle de droit d'auteur, c'est le consommateur tout simplement. Parce que on a la peur des geeks, on a la peur du peer-to-peer, mais le premier qui ne peut pas en fait utiliser ses contenus à cause de DRM, c'est le consommateur, c'est la petite personne lambda qui se retrouve à mettre son DVD, parce qu'il n'y reste que eux en fait qui achètent leur Blu-ray, leur DVD et qui se retrouvent à ne pas pouvoir les lire sur leur ordinateur, sur leur tablette, sur leur smartphone, sur tous les supports de leur choix. Et en fait, actuellement, on est le seul pays en Europe à avoir intégré cette notion d'interopérabilité, c'est-à-dire de ne pas empêcher deux systèmes de pouvoir échanger ensemble. C'est une super idée sur le papier, parce que vraiment, ça veut dire qu'on a compris qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Le problème, c'est que le régime juridique actuel qu'on a, c'est juste qu'on encourage en fait à l'interopérabilité. Il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune obligation et qui plus est, il y a plus des obstacles puisqu'on maintient le régime des mesures techniques de protection qui empêche précisément cette interopérabilité. Et on voit les discussions au niveau de la directive ECD qui ne donneront rien de ce côté-là. Moi, je milite en fait pour qu'on modifie les textes, pour obliger à l'interopérabilité. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire obliger à l'utilisation de formats ouverts pour que tout le monde puisse utiliser, pouvoir réutiliser ses documents comme il le souhaite, ses contenus numériques comme il le souhaite, et obliger à une information systématique sous peine de sanction, pour que tout le monde soit informé de ce qu'il a aujourd'hui sur son ordinateur et des obstacles qu'il peut y avoir à terme sur l'utilisation de ses contenus et de ses données.
Quand tu parles de formats ouverts, ce sont des formats dont les spécifications sont publiques, connues, et dont l'implémentation voilà. est libre d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction, que ce soit liée au droit d'auteur ou au droit des brevets. Est-ce que vas-y, Marie.
Non, c'est bon, c'est exactement ça.
Ok, parce qu'il nous reste même pas deux minutes pour cette partie droit d'auteur, parce qu'après il y a DRM, parce qu'après il y a pas mal d'annonces d'événements libristes. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, une petite partie, en fait, c'est que en fait, les industries culturelles, elles se moquent un peu de nous, complètement du consommateur, parce qu'en fait, elles essayent de jouer des deux côtés. D'un côté, vous achetez en fait le droit à la lecture et le droit à l'œuvre, et donc finalement, c'est la licence sur le film, et normalement, vous devriez avoir la licence sur l'ensemble des supports, que ce soit un DVD, un MP4, quelque chose qui est chiffré, quelque chose qui est en streaming, et d'un autre côté, elles essayent de vous le vendre plusieurs fois. Donc en fait, quand ça les arrange, vous achetez une licence pour le contenu, et quand ça les arrange, vous avez le droit, vous achetez juste une licence pour ce format. Et donc, et justement, les DRM leur permettent d'avoir ça. Et normalement, c'est absolument pas possible de vendre à quelqu'un deux fois la même chose.
Écoute, c'est une bonne conclusion. Alors, pas finale. Déjà, dans les annonces, donc le 18 septembre 2018, nos amis de la Fondation pour logiciels libres, à travers leur site Defective by Design, alors qui peut se traduire en français par défectueux à dessin ou par conception, organise la journée internationale contre les DRM, avec un mot d'ordre imaginez un monde sans DRM. Donc c'est le 18 septembre 2018, donc il y aura sans doute des événements organisés, ou en tout cas des ressources qui permettent de vivre dans un monde sans DRM. Je pense que l'émission de radio Libre à vous de l'April sera sans doute peut-être diffusée sur les airs ce jour-là, si c'est évidemment possible. Côté VLC, il y a VLC 4.0 qui arrivera quand il sera prêt avec de nouvelles fonctionnalités absolument géniales. Les personnes qui s'intéressent principalement au développement de VLC, j'annonce quand même les vidéos DevDays du 21 au 23 septembre 2018 à Paris. Jean-Baptiste fera une présentation justement des nouveautés dans VLC 4. Alors, ce sera en anglais si je ne me trompe pas.
quasiment tout ce qu'on fait est en anglais.
Voilà.
Parce qu'en fait, on a beaucoup de français, beaucoup d'allemand, donc tout le monde parle mal anglais, donc c'est bien.
Enfin, il dit ça, mais Jean-Baptiste parle très, très, très bien anglais. En tout cas, donc, je te remercie, Jean-Baptiste, pour cette intervention qui a permis effectivement d'éclairer sur les DRM, sur VLC. Je remercie aussi Marie, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone. J'espère que la prochaine fois, tu pourras venir de Compiègne pour être en studio pour une deuxième émission sur les DRM. Merci, Marie.
Avec plaisir, ce sera.
Merci.
Et à bientôt. Donc, je vais passer aux actualités à venir pour l'April et le monde du logiciel libre. Alors, il y a beaucoup d'actualités, je ne vais pas forcément toutes les faire parce que sinon, on va déborder. Dans les actualités rapides à venir, jeudi soir, donc pour les personnes qui habitent en Île-de-France, il y a la soirée de contribution au libre à la FPH dans le 11e. Vendredi soir, au local de l'April, il y a un apéro April, donc n'hésitez pas à passer. Alors, je ne vous redonne pas les adresses parce que tout est sur le site de l'April, donc april.org, ou sur le site de l'agenda du livre. Il y a également un apéro April à Montpellier le 3e jeudi du mois. Alors là, je n'ai pas noté, j'ai fait une erreur. J'ai juste noté jeudi, mais pas précisément. La semaine prochaine, il y aura le forum du numérique à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, donc le 14 septembre. Donc Étienne fera une conférence sur les enjeux du logiciel libre destiné au grand public. Et nous aurons également un stand.
16h30, si ma mère est bonne.
Donc c'est à 16h30. Nous serons présents aussi la semaine prochaine, alors je crois, avec Libratoire, Radio Cause Commune, à la fête de l'UMA, donc Olivier en régime me confirme, donc les 14, 15 et 16 septembre à la Courneuve, donc en Seine-Saint-Denis, dans l'espace dédié au logiciel libre, aux hackers et aux Fab Labs. Évidemment, la fête des possibles, nous avons une présentation tout à l'heure par Aliette Lacroix du 15 au 30 septembre 2018. Dans plus longtemps, il y a un April Camp à Marseille le week-end des 6 et 7 octobre 2018. Alors, un April Camp, c'est on se réunit pendant un week-end entre membres de l'April, personnes qui nous aiment bien ou simplement public intéressé pour discuter, pour échanger, puis éventuellement aussi pour avancer sur un certain nombre de projets. Donc n'hésitez pas à passer, c'est du 6 au 7 octobre 2018, donc au Foyer du Peuple. Donc je répète, tous ces événements sont annoncés, en tout cas pour les événements April, sur le site april.org, et évidemment sur le site de l'agenda du libre, donc agenda du libre tout attaché.org, vous avez un certain nombre d'événements partout en France, mais également dans d'autres pays. Donc on espère pouvoir vous rencontrer à ce moment-là. N'hésitez pas, en tout cas vendredi par exemple, pour les gens qui habitent en Île-de-France, venez à l'apéro, c'est toujours très sympathique. Ça parle de sujets divers et variés, et pas que de logiciels libres. Pour finir, l'April est très heureuse de participer à cette belle aventure que représente Cause Commune. Mais comme vous le savez, une radio ne peut pas fonctionner uniquement par la contribution humaine, même si c'est la contribution la plus importante. Cause Commune a besoin de soutien financier, ne serait-ce que pour payer les frais matériels. Par exemple, on a appris le coût des micros tout à l'heure. Il y a le studio, la diffusion sur la bande FM, les serveurs. Donc nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don donc sur le site cause-commune.fm, donc soit un don ponctuel, ou encore mieux si vous le pouvez, un don récurrent. Donc j'ai parfaitement conscience que les appels à soutien financier sont légion en ce moment, mais je crois franchement que cette aventure mérite d'être soutenue, et pas uniquement parce qu'on y participe, parce que c'est vraiment une belle aventure. Donc n'hésitez pas à faire un don. Donc je répète, cause-commune.fm, il y a un petit cœur, vous cliquez dessus, ou si dans le menu faire un don, je suppose. Donc je remercie les personnes qu'on a invitées aujourd'hui, donc Aliette Lacroix de la Fête des Possibles, Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan, Marie Duponchel. Je remercie évidemment en régie Olivier Grieco et Olivier Fraisse, dit Olive. Ils ont fait ça à deux aujourd'hui. J'en profite pour d'ailleurs annoncer, comme je vois Olive, que la prochaine Ubuntu Party, c'est 1er décembre. Vas-y, corrige-moi.
8-9 décembre.
8-9 décembre, donc à La Villette, à Paris.
C'est ça.
Ubuntu Party. Donc, notre prochaine émission à nous sera diffusée donc mardi 2 octobre 2018, donc à 15h30. Nous parlerons a priori de collectivité locale, logiciels libres et données publiques. Car notamment, il y a un article de la loi dite Le Maire de 2016 qui rentre en application sur les données publiques en octobre 2018. Donc nous parlerons sans doute de ce sujet-là. Notre émission se termine. Vous retrouverez donc sur notre site web april.org une page avec toutes les références utiles, ainsi que sur le site évidemment de la radio. Assez rapidement, le podcast sera disponible, donc vous pourrez réécouter. Marie-Odile et le groupe Transcription nous en feront une transcription, donc vous pourrez lire. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous indiquer ce qui vous a plu, des points d'amélioration. N'hésitez pas à nous suggérer des musiques libres, parce que visiblement, les pauses musicales du jour ont été appréciées, mais on a besoin de plus en plus de références. Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer une belle journée. On se retrouve donc le 2 octobre d'ici 2018. D'ici là, portez-vous bien. Et nous nous quittons comme d'habitude avec Washington de Réalaz.